Bonjour. L'émission d'aujourd'hui est consacrée à nouveau à Léa Goldberg, mais cette fois-ci, au lieu de poésie, en tout cas de textes rimés, nous allons aborder la prose de Léa Goldberg, beaucoup moins connue, même en Israël. Et on peut parler d'ailleurs de prose poétique, il n'empêche. Je rappelle tout de même brièvement pour les auditeurs qui auraient raté le premier épisode consacré à Léa Goldberg, que vous pourrez retrouver de toute façon en podcast, qu'il s'agit donc d'une grande poétesse, un grand nom de la poésie hébraïque. Léa Goldberg, née donc à Königsberg, à l'époque en Prusse, en 1911, et décédée à Jérusalem en 1970, prématurément. Et Léa Goldberg, toute petite, dès l'âge de 8 ans, fréquente l'école hébraïque, donc le fameux réseau d'écoles hébraïques disséminé un petit peu partout sur le territoire de l'Europe centrale et orientale. Le réseau en question se nommait Tarbout Culture, où la grande majorité des cours se faisaient en hébreu. Ce qui fait que dès l'âge de 12-13 ans, Léa Goldberg commence à composer de la poésie en hébreu. Qu'elle va poursuivre ce parcours sans faute avec une thèse de doctorat qu'elle va accomplir à Bonn en 1934-35 sur un sujet de langue sémitique comparée, à la suite de quoi, comme elle aura déjà publié à cette époque-là pas mal de poèmes dans les journaux, dans les revues hébraïques de Palestine. Je rappelle qu'en dans les années 30, nous sommes encore en Palestine mandataire. Le poète Avraham Shlonsky, qui est un petit peu son mentor, va lui procurer un certificat, un visa, on appelle ça quand même à l'époque déjà, un visa pour pouvoir arriver en Palestine, où elle arrive en 1935. Et là, elle va vraiment s'épanouir dans sa carrière de poétesse. Poétesse pour adultes, poétesse et écrivaine pour l'enfance, pour laquelle enfance elle va énormément créer. C'est une poétesse qui utilise le langage du lyrisme intime, c'est-à-dire que c'est pas... Léa Goldberg, on ne peut pas vraiment la placer, la situer dans le sérail des écrivains qui écrivent pour Eretz Israël, la terre d'Israël, et l'idéologie sioniste, terme pas du tout péjoratif dans ma bouche, mais en tout cas, elle ne se situe pas dans ce courant de l'écriture poétique du collectif, mais elle écrit de l'intérieur d'elle-même. Elle n'écrit pas une poésie autobiographique, en tout cas, ce n'est pas ce qu'elle laisse paraître. Elle va s'exprimer sur des thèmes tels que la nostalgie du pays natal, hein, cette sensation d'être déchirée entre son Europe orientale natale et cette terre d'Israël qu'elle aime tant, à laquelle elle est tant attachée, et néanmoins se sentant comme un oiseau migrateur, hein, dans une errance qu'elle poursuit pendant toute sa vie. Elle écrit aussi sur la solitude. Alors vous me direz que si ça c'est pas autobiographique, mais sans jamais se désigner elle-même comme ce personnage solitaire qu'elle dépeint, elle va réintroduire la forme sonnet dans la langue hébraïque. Forme que Tchernychovski, son aîné, puisque lui était né en 1875, donc vraiment son aîné d'une bonne grosse génération, avait lui-même recommencé à utiliser une forme qui était née en fait dans l'Italie du 15e-16e siècle, sur les traces de Dante, hein, le poète Emmanuel de Rome, Emmanuel Arome. Mais c'est vraiment et Tchernychovski et Léa Goldberg, dans sa langue extrêmement fluide, extrêmement, je dirais, presque simple, hein, un hébreu très épuré. On n'a plus du tout les grands effets de manche, si je puis dire, de l'hébreu biblique, des formes, de la morphologie, de la langue qui saturait encore souvent la poésie de ses prédécesseurs. Hein, Léa Goldberg vraiment utilise une langue très, très humble, très, encore une fois, apparentée vraiment à l'hébreu de tous les jours. C'est également une grande traductrice vers l'hébreu, traductrice de l'allemand, traductrice de l'anglais, les sonnets de Shakespeare précisément, traductrice de l'italien, elle va traduire Pétrarque. Comme ses homologues, je dirais, et poètes et écrivains, elle s'adonne dans ses années 30 à un travail qui a déjà été initié par Bialik, entre autres, à savoir le poète Bialik, à savoir confectionner un répertoire de littérature mondiale en hébreu. Et comment mieux le faire que par le biais de la traduction ? Donc elle est elle aussi dédiée à cette tâche. Et comme je l'ai dit également, la littérature enfantine, un corpus qui est en train de naître, hein, qui est encore dans les langes, en train de se constituer. Et puis, il y a un roman, un premier roman qui va paraître en 1946, roman intitulé, en hébreu d'abord, « Vehu Haor », titre français, « Alors vient la lumière ». Évidemment, on pense tout de suite « Vayehi Or hein, » et « La lumière fut », qui évidemment s'exprime ici dans le texte biblique en Genèse par cette tournure que les hébréophones et hébraïsants reconnaîtront, cet emploi très très particulier, caractéristique de l'hébreu biblique, du verbe « être » précédé d'un « vav » très fort, qui a le don de transformer une action accomplie en inaccomplie et l'inverse, pour dire le dire vite, un passé en présent et un présent en passé. Sauf que cette tournure-là, que la lumière fut, Léa Goldberg va la traduire, hein, va le reformuler, « Vehu haor hein, » et « il est », mot à mot, et « il est la lumière ». La traduction française ne pouvait pas laisser en l'état, sans doute que ça n'agréait pas à l'éditeur, donc ça devient « alors vient la lumière hein, », et le voici, lui qui est lumière, ou quelque chose dans ce goût-là. Alors, une fois passées toutes ces ratiocinations autour de la traduction, ce roman voit donc le jour en 1946, et il faut dire qu'il ne va pas laisser une impression inoubliable sur le public des lecteurs en Palestine mandataire. Dans ces années-là, la littérature hébraïque d'Eretz Israël est tout entière dévolue à la lutte nationale et à la fabrication de la figure du Tzabar, c'est-à-dire le nouvel hébreu, hein, même pas le nouveau juif, mais le nouvel hébreu. Ce Tzabar, je rappelle, ce fruit absolument extraordinaire qu'est la figue de Barbarie, hein, qui vous pique de partout quand vous la saisissez avec les doigts. Et lorsque vous découvrez enfin son cœur, ce n'est que douceur, tendresse, etc. Donc voilà en gros cette figure emblématique et bien sûr complètement symbolique du jeune hébreu. Et surtout de son côté viril, hein, lui qui est censé défendre, construire et défendre en même temps cet état en formation. La nouvelle génération d'écrivains de ces années-là, hein, qu'on appelle effectivement la génération de la guerre d'indépendance, décrit dans ses œuvres des héros caractérisés par leur beauté et leurs célèbres mèches de cheveux, les fameux Yefei Habloit Veatoar, les garçons, les beaux garçons à la belle mèche de cheveux et au bel aspect, comme le célèbre le poète Chaim Gori dans son non moins célèbre poème intitulé « Amitié ». Le roman de Léa Goldberg, lui, est à la fois très psychologique et très européen, Je dirais que les deux termes se recoupent un peu à l'époque. Et ne parvient donc pas du tout à trouver sa place dans cette nouvelle atmosphère culturelle qui prélude à la création de l'État. Quelques 60 ans plus tard, lors de la réédition de Vehu Haor, Alors vient la lumière, en Israël, on ne peut que constater la réussite de ce grand roman d'éducation, hein, en allemand, célèbre formule Bildungsroman, un roman d'éducation, roman d'initiation, roman de formation, écrit par une femme, une poétesse, qui insistait tant pour qu'on l'appelle Sofer, écrivain, et non Soferet, au féminin. Et ce roman a été traduit en français par Olivier Bosseau, publié aux éditions H-E-O, dans une collection intitulée « Les nouveaux horizons ». Il est paru en 2019, et si aujourd'hui je le rappelle à la mémoire de nos auditeurs et à leur attention qui auraient pu passer à côté de ce roman, eh bien c'est effectivement pour en faire une nouvelle promotion, comme on dit, et inciter le plus grand nombre d'entre vous à courir toutes affaires cessantes, le commander chez votre libraire préféré. Donc, Alors vient la lumière, Léa Goldberg, traduction Olivier Bosseau, aux éditions H&O. Comme nous l'avons retracé donc dans notre précédente émission, toujours, Léa Goldberg a écrit dans presque tous les genres littéraires possibles. En plus de ses poèmes eux-mêmes extrêmement diversifiés, puisqu'on y trouve, à côté des sonnets, des ballades. Elle publie donc ce roman, elle publie un ouvrage épistolaire, Lettres d'un voyage imaginaire, elle publie des mémoires, Rencontre avec un poète, un recueil de nouvelles, intitulé Pêche, une pièce de théâtre, intitulée La Châtelaine, sans parler donc à nouveau des œuvres pour la jeunesse, Que font les gazelles, ou est plutôt Démons et Merveilles, etc. Encore une fois, elle n'a pas rencontré Léa Goldberg, le succès dans tous les genres littéraires, et ses poèmes ont été absorbés dans le cycle de la littérature hébraïque et l'ont figé dans le statut de poétesse, une sorte de côte d'Adam au sein de la troïka poétique Chlonsky, Abraham Chlonsky, Nathan Alterman et donc Léa Goldberg. Ses œuvres pour la jeunesse sont devenues des classiques. Quant à sa prose, elle a été marginalisée et n'a pas fait jusqu'aujourd'hui, les choses changent, je l'ai dit, l'objet de l'intérêt qu'elle méritait plus que largement. Il s'agit, dans ce roman, Vehu Haor, il s'agit d'une œuvre extrêmement personnelle, très féminine, on va voir tout de suite pourquoi, où l'auteur aborde de manière frontale des thèmes jamais abordés jusque-là, comme la folie de son père. Il se trouve qu'au sortir de la Première Guerre mondiale, donc ils avaient été déplacés en tant que Lituaniens, ils ont dû s'exiler, aller habiter ailleurs. Et quand ils sont rentrés en Lituanie, son père, un personnage original, portait des chaussures rouges. Et les gardes lituaniens, la police lituanienne, très bêtement, il faut le dire, ont vu dans ces chaussures rouges un signe d'acquaintance avec le pouvoir soviétique. Ils ont arrêté son père et ils l'ont torturé moralement, en lui faisant subir pendant 8 à 10 jours durant des simulacres d'exécution. Ça a été fatal pour la raison de M. Goldberg, qui est devenu psychiatriquement malade et il est resté tout le restant de son existence. Le récit très bref et très condensé de cet épisode qu'elle fait dans le roman est déterminant dans le comportement de l'héroïne, qui est une héroïne à la troisième personne, Nora, une sorte de double de Léa Goldberg, qui va donc faire le récit d'un souvenir d'enfance traumatique à l'origine de toutes les difficultés qu'elle va vivre dans sa vie de jeune femme. Nous formions un convoi de réfugiés de retour au pays, à travers le feu, le froid et les poux. À travers aussi la première solitude de l'enfance, cette même scène stupide. Les gardes frontières du petit pays, d'ignares paysans en uniforme militaire, regardant les souliers jaunes du père. Il disait que ces chaussures, c'était typique des espions bolcheviques. Ensuite, il l'avait enfermée dans une étable vide. Et chaque jour, 10 jours durant, il le sortait, comme pour l'exécuter. 10 jours d'affilée, ils jouèrent à ce petit jeu. À la fin, l'homme était brisé. Nora l'entendit pleurer pour la première fois d'une voix fluette, féminine, qui sanglotait. Et les plaintes désespérées dans la voix de la mère, « Pour ma fille, je vous en supplie, pour ma fille !» Et une femme inconnue, qui savait garder une contenance irréprochable, même au cœur de ce convoi exténué et meurtri. Comment n'a-t-il pas honte, un homme qui pleure, suivi d'un rire méprisant. Et quand ils revinrent, ils le remirent en prison. De cet endroit, il n'y avait d'autre issue que l'hôpital. Un périple de 2 semaines, c'est étrange, mais dans ses souvenirs, des chants de toute beauté étaient également gravés pour toujours. Des centaurées, du solstice au milieu de blé haut et la même lumière d'un pâle doré de début septembre. Une minuscule grenouille verte sur la margelle d'un puits, un matin après la pluie, et le ciel, gris et tendre, et la verdure, radieuse et fournie. Il disait qu'ils avaient eu faim en route, mais elle se souvient également. Elle n'avait pas mangé depuis des jours. Pourtant, la faim ne la dérangeait pas, il y avait de l'eau à boire, et pour une raison ou une autre, elle s'en satisfaisait. Elle se rappelait encore la première fois qu'elle avait vu du pain blanc, la joie qu'elle en avait éprouvée. Rien ne la blessait, tout lui était hospitalier. Elle se sentait bien dans la chaleur de cette cabane paysanne blanchie à la chaux. La paille jaune sur le sol, des immortelles roses sur du duvet ambré entre 2 carreaux de fenêtres, et les murs si blancs et si propres. Il ne faisait pas froid, il n'y avait aucun pouls. Le pain blanc était le premier messager d'une paix authentique de cette après-guerre qu'on lui avait promis durant toute son enfance. Les paysans souriaient de bon cœur, les gens ne lui faisaient plus peur. C'était la première fois qu'il ne se montrait pas affreux avec elle, après ses 2 semaines d'errance sur les routes. Il y avait tout eu lors de cette même soirée. La mère avait tenté sa chance auprès des sentinelles qui surveillaient le père dans l'étable, s'adressant à cet officier aux yeux candides et aux joues rosies qui racontait avec une innocence enthousiaste comment il avait exécuté 10 officiers et soldats de l'armée rouge. « Un coup de fusil, madame, il s'écroule comme une botte de paille. » Nora resta seule à un carrefour au milieu des champs. Elle surveillait leurs baluchons. Elle s'assit sur les paquets, seule, à un croisement. Le soir tombait. Il faisait froid. Ses mains et ses pieds étaient gelés. Des soldats en armes la croisèrent, ils ne la touchèrent pas. Des heures passèrent. C'était on ne peut plus évident. Ses parents ne reviendraient jamais. Elle mourrait de froid cette nuit. Elle se prenait un peu en pitié. Elle n'avait que 8 ans. Trop jeune pour mourir. Mais la peur la pétrifiait. Et ce n'est que lorsque la mère revint qu'elle éclata en sanglots, bref et saccadés. Mais après cela, il y avait eu la belle cabane, la chaleur et le pain blanc. Musique. Shut up.
שונים שורשי משני נופים שונים
Un poème de Léa Goldberg que vous venez d'entendre, Oranim, il la note plutôt, les pins, les arbres et les pins en particulier. Ce poème qui évoque justement la douleur d'appartenir à deux terres, d'être écartelé entre deux pays bien-aimés, le pays de l'enfance et le pays de l'amour, cette terre d'Israël tant convoitée. La musique et de la chanteuse Noa, Achinoam Nini, qui chante également cette chanson. La littérature hébraïque de l'époque, fin des années 40, avait une approche anti-galoutique, c'est-à-dire qui s'opposait à la littérature de l'exil. Elle repoussait tout ce qui en venait ou pouvait l'évoquer. Elle s'écartait de ce que l'on considérait comme de la faiblesse, voire de la déliquescence, des conflits psychologiques, et last but not least, et dernier mais non le moindre, écartait toute sexualité, toute allusion à une sexualité avouée, voire, entre guillemets, décadente. Dans un tel climat, le roman typiquement européen de Léa Goldberg, qui pénètre les arcanes de la conscience d'une toute jeune fille juive désemparée, qui tente désespérément d'effacer, de refouler son passé traumatique, un tel roman ne pouvait recevoir un accueil favorable. Le critique de l'époque, Immanuel Ben-Gurion, s'élève violemment contre la déconnexion du « ik et nunc » du « ici et maintenant » du roman et dénonce son aspect, dit-il, exclusivement autobiographique. Mais aujourd'hui, après près de 70 ans plus tard, force est de constater la qualité intrinsèque du roman. L'intrigue tourne autour de Nora, qui a reçu son prénom d'après celui de l'héroïne de Maison de poupée de Ibsen. C'est une jeune étudiante qui revient pour les vacances d'été dans sa ville natale de Lituanie, après avoir achevé sa première année à l'université de Berlin. Ce retour à la maison ne lui apporte dans un premier temps que des déceptions. Elle découvre tout d'abord que son père, jusque-là hospitalisé dans un établissement psychiatrique, est lui aussi de retour dans la ville. Elle s'efforce de s'éloigner de la présence paternelle et dans le même temps tombe amoureuse d'un ami de son père, Albert Harin, qui arrive des États-Unis pour une visite. Le roman dépeint cette relation qui ne se concrétise pas jusqu'au dénouement inévitable. La tentative de Nora de s'éloigner de son père et de le renier s'avère impossible et est présentée finalement sous un jour tragiquement ironique. L'analyse psychologique de la cécité de Nora est d'une grande finesse. L'époque de la publication du roman est également désignée en filigrane par l'impossibilité de faire l'impasse sur le passé diasporique et de s'en débarrasser une fois pour toutes. Le roman s'ouvre sur le meurtre symbolique du père. Nora, dans le train qui la ramène chez elle, rencontre un juif barbu qui parle yiddish et qui enquête sur sa lignée familiale. La jeune fille, dont le père se trouve en asile psychiatrique, repousse avec véhémence les questions du vieil homme pour finalement lui lancer dans un élan de colère « Je n'ai pas de père, il est mort, tu entends, mort !» Et ce disant, elle se rend compte immédiatement de la signification de cette phrase, je cite, « ce désir caché au plus profond de son cœur » et commence à éprouver des remords qui ne cessent de l'assaillir. Le roman « Véhou à or, alors vient la lumière » relate la façon dont Nora affronte son désir de se libérer des chaînes qui la retiennent à son passé, à sa famille et à son appartenance nationale, en l'occurrence sa judéité, telle qu'elle est vécue dans un pays où l'antisémitisme est déjà latent. Déjà dans le train, au début du roman, elle se sent prise dans les raies d'un triangle dont elle ne peut s'échapper. L'aspiration de Nora à devenir un sujet autonome qui se situe dans l'universel, s'avère être impossible. La montée du nazisme, évoquée de façon en apparence secondaire, souligne d'emblée l'échec de cette posture universelle. Et même cette autonomie psychologique revendiquée par la jeune fille, son désir de, entre guillemets, tuer le père, ou du moins d'effacer jusqu'à son souvenir, s'avère être un vœu pieux, puisqu'elle tombe amoureuse du meilleur ami de son père, qui n'est autre que son double. Son affirmation « J'en ai terminé avec mes contes du passé, je suis libre » est très naïve, puisque le lecteur ne peut que constater au fur et à mesure qu'il avance dans le roman que ce passé est loin d'être éliminé et que l'héroïne ne cesse d'y être confrontée. L'exergue, dont les premiers mots donnent son titre au roman, est tiré d'un poème de Moshe Ibn Ezra, l'un des grands poètes de l'âge d'or espagnol, qui composa des poèmes profanes, mais aussi religieux. Alors vient la lumière, qui continuera à illuminer les jours de ma jeunesse, pour ajouter son éclat au temps de ma vieillesse. Vehu haor, asher yelech ve'yor yemei noar, ve'yosef et zokunai.